1970, 8 étudiants de l'Université Laval préparent un dossier en vue de l'obtention d'un permis du CRTC dans le but de créer une station de radio. Le permis est accordé. 15 février 1973, CKRL 89.1 émet pour la première fois à 17h. Point de départ de ce qui deviendra une aventure d'une richesse inégalée. Aujourd'hui, la plus vieille radio communautaire en Amérique du Nord, voire même dans le monde, CKRL est toujours là. Grâce aux milliers d'animateurs, de réalisateurs, de collaborateurs qui ont animé ces ondes. Et grâce à vous, auditeurs et auditrices toujours nombreux, toujours avec nous. Merci de laisser CKRL 89.1 cultiver vos goûts depuis 1973.
Avant, j'étais pas bien. Pas bien avec moi, pas bien avec personne. Avant, je me faisais peur. Mais c'était avant. Avant, quand j'étais toxicomane.
Quand la toxicomanie prend toute la place, il y a portage. Au Québec, des milliers de personnes sont toxicomanes. Aidez-les à s'en sortir. Donnez à portage. Visitez portage.ca.
Maintenant, je suis bien. Vraiment bien. Maintenant, je suis fier de moi. Maintenant, je vis. Donnez un portage. Merci.
C'est KRL 89.1.
Bonjour à tous, c'est Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL. Vous écoutez de midi à 13h l'émission Au 7e ciel, regard sur le cinéma, une émission qui, comme son titre l'indique, s'intéresse principalement, ou je dirais uniquement au cinéma pendant une heure chaque samedi. Cette semaine, comme on le fait depuis quelques semaines, en fait depuis le début du mois de juillet, une émission entièrement consacrée à un cinéaste. Le choix des cinéastes se fait un peu selon l'humeur, je dirais, de manière un peu désinvolte. Mais il s'agit aussi d'essayer de voir à travers l'exemple d'un seul créateur, comment le cinéma passe par lui, comment il circule par lui, comment aujourd'hui son travail, s'il s'agit d'un cinéaste qui a réalisé des films il y a plusieurs années, nous parle encore. C'est une autre façon finalement de voir comment il est possible de parler de cinéma aujourd'hui sans nécessairement être dans l'actualité. J'ai envie de dire que l'émission Au 7e ciel est principalement consacrée à l'inactualité du cinéma, c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement de voir comment au quotidien ou dans les médias on parle de certains films, mais comment au contraire les films peuvent parler de la réalité médiatique, de la réalité quotidienne d'une autre façon, avec des moyens qui lui sont propres. Dans les émissions passées, j'ai parlé de François Truffaut, entre autres, de Claude Chabrol, donc Sangso, et la semaine dernière de João César Monteiro, un cinéaste portugais méconnu. Donc il y a l'idée d'alterner entre des cinéastes plus récents, des cinéastes méconnus, cinéastes qui œuvrent récemment, je pense à Aung San Suu, cinéaste sud-coréen dont il a été question il y a deux semaines, et cinéaste méconnu Monteiro, sûrement, du moins ici, assez méconnu, puisqu'on trouve, difficilement ses films hors des lieux spécialisés, et en particulier finalement les sites où on peut commander ses DVD à un prix relativement élevé. Et cette semaine, un peu comme je l'ai fait avec Truffaut et Chabrol, je vais parler d'un cinéaste qui est très important, qui est peut-être un peu moins accessible, un peu plus exigeant, disons, pour les spectateurs que Truffaut ou Chabrol, qui tire moins les fils du récit cinématographique tel qu'on le comprend traditionnellement, puis qui vient de la littérature, que ce soit de la grande littérature, entre guillemets, ou de la littérature davantage populaire, qui est un puisier incessant pour le cinéma le plus accessible. Bon, c'est un peu là où ont puisé leur inspiration Truffaut et Chabrol. Antonioni, c'est plus compliqué. Par exemple, si on pense au récit policier, on dirait que chez Antonioni, le récit policier se perd au profit de l'écran, au profit du cadre, au profit de l'image photographique. Le cinéma d'Antonioni est d'une certaine façon une manière d'interroger les moyens du cinéma, une manière de voir comment en lui seul il recèle une force unique. Donc la spécificité du cinéma, c'est un peu un des enjeux qui a traversé tout le travail d'Antonioni et avec lequel j'ai envie de tirer le fil de mon propos cette semaine. Donc Antonioni, un cinéaste italien qui a commencé son travail au début des années 40, entre autres comme scénariste de Rossellini, donc en pleine période de la Deuxième Guerre mondiale avec Rossellini. Antonioni écrit un film sur un pilote d'avion qui revient, donc un film relativement ambigu politiquement, puisqu'il participait de la production quasi-propagandiste de l'époque. Il m'est arrivé ici, il y a plusieurs semaines, de parler de Rossellini en disant comment des cinéastes italiens dans l'immédiate après-guerre ou juste avant, avait une position ambiguë politiquement, sans dire que des cinéastes ont retourné leur veste, on peut quand même soulever la question de leur position politique et de leur opportunisme. Et c'est peut-être le cas d'Antonioni, qui quand même était très jeune à l'époque et qui s'est fait connaître, par exemple, comme son contemporain Federico Fellini, d'abord comme critique de cinéma. Et comme beaucoup de cinéastes italiens qui ont émergé après la Deuxième Guerre mondiale, et on peut faire un spectre assez large qui nous mène des années 40 aux années 60, soit par exemple d'Antonioni à Dario Argento ou Bernardo Bertolucci. La plupart du temps, ils ont fait leurs armes en faisant de la critique cinématographique, et c'est le cas d'Antonioni, et c'est le cas de Fellini aussi. Donc Antonioni et Fellini qui ont collaboré également ensemble, après avoir collaboré tous deux avec Roberto Rossellini, ils ont collaboré ensemble sur Le Chèque Blanc, qui est un des premiers très beaux films de Fellini, réalisé en 1952. J'aurai l'occasion de parler un peu plus clairement de l'apport particulier d'Antonioni dans les prochaines minutes.
Du danger. arriba, me interesaría un mono de esos. ¿Los tiene usted en venta o en exposición?
Sí, son para venderlo.
¿Tercio de dos qué precio tiene?
5.000 pesetas.
Esto, otra cosa. ¿Viven simplemente en esta jaula así reducida o mayor?
Bueno, pueden vivir en esta jaula o en otra mayor, pero verdaderamente, si el que los tiene, el que los compra, puede tenerlo hasta el centro.
¿Algo más bien le rebajará?
No. Solamente eso, 200 pesetas en total. Nada más.
Oiga, señor.
On vient d'entendre un extrait qui ressemble pratiquement à de l'électroacoustique très subtil du film qui s'appelle en français Profession reporter de Michelangelo Antonioni, en anglais The Passenger, un film tourné en anglais en 1974 avec entre autres principalement Jack Nicholson, Maria Schneider et plusieurs villes dans le monde. C'est un film qui est un peu un tournant dans le cinéma d'Antonioni, et avant d'aller plus loin, je vais simplement détailler la séquence dont je viens de faire entendre la bande-son, qui va nous mettre un peu dans l'ambiance de l'esthétique antonionienne telle qu'il se déploie et se renouvelle, je dirais, dans ce film de 1974-1975. C'est une bande-son qui témoigne bien du fait de l'esthétique d'Antonioni rendue à ce point de sa filmographie. C'est-à-dire qu'il ne ressent pas spécialement la nécessité de rajouter un contenu dramatique fort qui viendrait justifier toute une mise en place, toute une mise en scène, tout un type de montage. Au contraire, souvent, l'ambiance, les lieux qui ont été déterminés d'avance par les cinéastes, le jeu de l'acteur, sa capacité de se déplacer dans le cadre de l'image qui va, d'une certaine façon, donner une couleur singulière à l'intrigue et même faire tenir lieu d'intrigue en soi, ce qui est très différent que de considérer que toute une ambiance cinématographique qui s'exprime entre autres par une absence de dialogue comme on l'entend dans cet extrait-là où finalement on voit Jack Nicholson à Barcelone se déplacer. En fait, la séquence commence avec simplement la traversée du personnage d'une rue à une autre. Je dirais qu'au troisième plan, il y a un moment où Nicholson, alors qu'il se retrouve face à une intersection et veut traverser la rue, il voit passer devant lui un camion et il se déplace un petit peu. En fait, il se déplace un petit peu à l'extrémité droite du cadre de l'image, comme s'il voulait ne pas être vu par le conducteur de ce camion. Disons que si nous, en tant que spectateurs, on arrive à ce moment-là du film, on comprend tout de suite ce qui se passe. On n'a pas besoin de savoir quels sont les tenants et aboutissants du personnage parce qu'on pressent que l'intrigue, elle filtre déjà dans la manière dont l'acteur se déplace dans le plan et que cette espèce de pureté, finalement, dans la narration, dans l'énonciation de l'image, vaut pour elle-même davantage que le reste. Parce qu'il faut savoir, finalement, que ce commentaire-là que je le fais en ayant en tête tout le film et en sachant que la tension créée par l'intrigue, par un jeu de faux fuyants, par exemple, le déplacement dans le cadre de Nicholson, est principalement un début du film. Donc, c'est pas nécessairement les raisons qui demeurent assez floues tout au long du film pour lesquelles le personnage se déplace qui nous intéresse, mais plutôt simplement une forme d'intrigue qui trouve à se manifester de façon constante par un jeu de montage, par une tension que fait simplement s'imposer, qui s'impose simplement, disons, par un travail de la mise en scène, un travail du jeu d'acteur, etc. Et cette séquence-là est tout à fait intéressante parce qu'il met aussi de l'avant ce qui fait peut-être la simplicité du cinéma d'Antonioni et son dégagement du contexte, son apparent, parce que ça se discute tout à fait, mais l'apparent dégagement d'Antonioni du contexte sociologique dans lequel ses films s'inscrivent. Donc souvent, on a l'impression, en voyant ces films où il y a très peu de dialogue, où l'intrigue, comme je viens de décrire, est assez ténue, ou en tout cas s'exprime d'une façon tellement à contre-courant de l'idée qu'on se fait de la manière dont on doit divulguer des informations qui nourrissent la dramaturgie pour les spectateurs, que parfois le contexte social, contexte politique, apparaît tout à fait hors sujet pour ce qui est de la manière dont on pourrait comprendre les films d'Antonioni, pour ce qui est de savoir ce qu'Antonioni essaie de nous dire. Mais en fait, Antonioni dit dans plusieurs interviews que ce film de Passenger est peut-être son film le plus politique. Alors comment comprendre une affirmation semblable? Il faut la comprendre en ayant en tête que Antonioni a trouvé un moyen de faire de la politique au cinéma en utilisant principalement les moyens de la mise en scène cinématographique plutôt que les moyens d'information que peut proposer le cinéma de façon assez simple, en fait, d'information sociologique, politique, de façon assez simple, par des signes très précis dans les décors qui dénotent le contexte social, contexte culturel dans lequel on se trouve, qui seraient soulignés par le montage, par exemple, donc un insert, disons, un plan rapproché sur un objet qui serait, disons, par exemple, exotique, si le personnage se trouve dans un contexte qui n'est pas son contexte habituel de vie. Antonioni ne souligne pas par des détails dans l'image ou par un certain nombre d'informations typiques dans les dialogues, le contexte dans lequel on se trouve. C'est plutôt les moyens de la mise en scène, la forme en tant que telle qui prend une couleur politique. On va essayer de détailler ça.
I'm so I suppose the thing about an interlinear to this picture should be about Michelangelo Antonioni. In this period, they had what they call the art film. We first became aware of Antonioni with a picture called La Ventura, and this picture, The Passenger, was probably the biggest adventure in filming that I ever had in my life. You see here, we're in the desert, which was basically shot at the end of the picture, and it's typical of Antonioni, and it's filmed at a dispassionate distance. You look at the environment, you look at the pace of the village and the hard, barren rocks. Some interest in a stranger coming in there, not too much. The boy you see here was actually a boy we met in Jeannette, the oasis, where we filmed a lot of the desert sections of the picture. The first piece of the film in this desert is a man looking for something, and that's really enough of a story for Antonioni. Comes into the store, no one speaks or reacts much. In this day, it's interesting that he uses the exchange of a cigarette as the international symbol for contact with someone. Just a gesture. He knows what it is. Men inscrutable, he lights the cigarette, just leaves, doesn't even say follow.
On vient d'entendre la voix de Jack Nicholson, la voix magnifique de Nicholson, Nicholson qui est pas le même que celui qu'on voit dans le film qui est un des principaux points d'attraction de cette émission aujourd'hui, The Passenger, un film d'Antonioni du milieu des années 70. Évidemment, sa voix est beaucoup plus graveleuse aujourd'hui et d'une certaine manière, je pourrais dire, si on y va d'un point de vue romantique et pas nécessairement antonionien, magnifié par le passage des ans, puis son regard relativement nostalgique sur une période du cinéma auquel il a participé et qui est assez loin de nous aujourd'hui. Qu'est-ce que nous dit Jack Nicholson dans ces quelques mots qu'on a entendus en anglais? Nicholson, en fait, décrit, c'est sur le DVD, c'est la bande audio du DVD de Passenger que vous pouvez trouver assez facilement dans les clubs vidéo puisque c'est édité par Sony, grâce entre autres aux pressions, je dirais, qu'a pu faire Nicholson au fil des ans afin que le film soit réédité, à la fois grâce à une sortie en salle, une restauration aussi sur pellicule en bonne et due forme, mais aussi par une distribution la plus large possible dans le système de diffusion normal des films via le DVD au commerce du coin. Donc maintenant, on peut trouver assez facilement ce film, ce qui n'a pas été le cas. C'est un des films d'Antonioni qui a été assez difficile à trouver sur le marché pendant des années. Et ça a à voir avec le fait qu'à l'époque, Antonioni réalisait ses films avec un major en particulier, soit MGM, qui a soutenu aussi plusieurs cinéastes à l'époque, disons des cinéastes internationaux, en particulier, Bergman, donc Ingmar Bergman, qui est d'ailleurs décédé la même journée, la même année qu'Antonioni, avait le soutien de MGM pendant les années 70, et curieusement, ça a pu impliquer dans certains cas que leurs films, alors soutenus par des majors, soient assez difficiles d'accès ou alors ressortent sous des formats qui correspondent pas nécessairement au format d'origine. Donc, comme ça, un certain laxisme dans la diffusion et le soutien à long terme d'œuvres importantes de cinéastes internationaux par des majors américains. Que souligne finalement Nicholson d'une certaine manière dans la présentation de cette première séquence du film. Un film qui commence en Afrique avec Nicholson qu'on voit arriver dans le plan, dans une Jeep, dans le désert. Et les villages, en fait, en bordure du désert et les habitants du village qui semblent tout à fait, d'ailleurs, avoir été pris, avoir été choisis par l'équipe du film parce qu'ils habitaient là. Donc ça montre bien la dimension documentaire du film, mais cette idée que la politique, comme je le disais juste avant la pause musicale, la politique dans le cinéma d'Antonioni n'émerge pas nécessairement par un souci du détail, par un soulignement, disons, de la technique cinématographique et du discours dramaturgique dans l'image. Le discours dramaturgique, je veux dire la parole, mais plutôt le contenu social, le contenu politique émerge peu à peu dans le film, dans le cadre, sans nécessairement... qu'Antonioni le souligne, parce qu'on a l'impression que dans son cinéma, le paysage, la réalité courante qui entoure ces personnages est plus forte, plus importante que le cadre, que l'énonciation cinématographique et tous les moyens par lesquels normalement la dramaturgie et le récit viennent à s'exprimer dans un film. C'est un peu la révolution antonionienne qu'essaie d'expliquer d'ailleurs Nicholson un peu après l'extrait que je viens de faire entendre. Donc Nicholson qui raconte comment ce qu'Antonioni fait à l'époque et que je viens tout juste de décrire a été assez peu suivi depuis 25 ans où on est dans une ère, je cite et je traduis de l'anglais vers le français, principalement menée par le mélodrame et une culture du jeu vidéo. Donc je trouve par ailleurs la proposition de Nicholson en ce qui a trait au jeu vidéo discutable, dans la mesure où souvent Antonioni, dans son cinéma, a mis de l'avant une manière de faire des plans, de faire circuler la caméra dans des lieux qu'il filme, qui laisse entendre en fait que le point de vue de caméra vaut pour lui-même, au-delà du fait que la caméra traduirait le point de vue de quelqu'un ou d'un personnage, comme c'est le cas souvent dans les films de fiction traditionnellement. Donc on a l'impression parfois que la caméra est mobile et que cette mobilité n'a de valeur que... si on veut, la caméra ne peut se justifier que par le fait qu'elle a les moyens totaux d'embrasser l'image. Je vais essayer de décrire les choses un peu plus clairement parce que là j'ai un peu de mal. C'est la complexité du cinéma d'Antonioni qui me rattrape. Souvent on a l'impression en fait que les mouvements de caméra se font d'eux-mêmes, ne traduisent pas nécessairement le regard de personnage qu'on retrouve dans le film, mais au contraire laissent entendre qu'il y a une réalité comme ça que seule la caméra est en mesure de traduire et de montrer. Et c'est cette façon de faire du cinéma qui aujourd'hui parfois est reprise par des mouvements de caméra un peu fantômes que l'on retrouve dans les jeux vidéo mais qui n'ont peut-être pas la conscience et la substance antonionienne, mais du moins s'en trouvent plus ou moins sous influence sans s'en rendre compte. On continue après la pause.
Offrez-vous un t-shirt officiel de CKRL à 12$ au lieu de 20. Pendant 5 semaines et jusqu'à épuisement des stocks, nos 5 variétés de t-shirts seront offertes en alternance pour seulement 12$. Du 1er au 5 août, le rouge. Passez-nous voir sur semaine de 9h à 17h au 405 3e avenue.
De Christine Brouillette à Albert Camus, en passant par Anne Hébert et Roger Lemelin, nombreux sont les écrivains qui ont flâné dans Québec. La promenade des écrivains vous propose de suivre leurs traces au gré des textes qu'ils ont laissés. En 2 heures de flânerie et à travers des lectures commentées, vous découvrirez une ville réinventée où la fiction se marie au réel. La promenade des écrivains, 8 parcours différents et autant d'expériences fascinantes tout au long de la belle saison. Pour plus de détails, rendez-vous sur promenade-écrivain.qc.ca.
À CKRL l'été, des nouveautés francophones y en pleut. Du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30, votre radio vous propose son hit parade et ses nouveautés francophones à l'émission Nouveau Prix.
Plus de 10 heures de nouveautés chaque semaine.
L'innovation seulement au 89.
Da da da.
CKRL 89.1.
The man has to assume that's what he wants, but we don't see where he was headed. The thing about this approach to filming is it's exactly the opposite of the 25 year or so cycle of melodrama we're in, where the audience of films is stimulated and, I suppose you could say, video games oriented. So this kind of pace is, to me, still fascinating. More cigarettes. Mint tea is something that you see throughout the Sahara Desert. These were shot last in the picture. We finished in the desert, which was a very, very trying location.
On vient d'entendre à nouveau la voix de Jack Nicholson qui narre les premières séquences. Évidemment, si on prend la peine de cliquer sur l'option commentaire audio, sur le DVD de Passenger, un film de Michelangelo Antonioni. Antonioni qui est le cinéaste de prédilection avec lequel j'ai envie de parler de cinéma aujourd'hui et même de cinéma contemporain. Juste avant la pause, je soulignais à quel point la proposition qu'on vient d'entendre, en fait, de Jack Nicholson, selon laquelle l'approche cinématographique d'Antonioni est tout à fait à contre-courant ou prend le contre-pied, de 25 ans, c'est lui-même qui le propose, 25 ans de cinéma principalement marqué par l'apport du mélodrame, ou disons la prépondérance du mélodrame dans la production cinématographique. J'ose comprendre que lorsque Jack Nicholson parle de mélodrame, c'est pas nécessairement des films comme Autant porte le vent, ou en tout cas des films traditionnels, relativement romantiques, qui jouent sur l'exacerbation des sentiments, mais peut-être en tout cas un type de cinéma qui fait du facteur émotif en tant qu'élément principal par lequel la qualité d'un film peut être mesuré. Le propos de ce serait le propos de ces films que Nicholson qualifie de mélodramatiques, puis qui effectivement sont tout à fait à 100 000 km du cinéma d'Antonioni, qui est si éthéré, si dégagé d'une expression émotive primordiale, disons. Donc, son cinéma est toujours en retrait, comme je le disais, des expressions les plus primaires, disons, qui font souvent la force et l'une des définitions qu'on accorde au spectacle cinématographique. C'est aussi un cinéma qui, selon Nicholson, se trouve à 100 000 km également des films marqués par le jeu vidéo. Encore là, il faut en discuter, essayer de comprendre ce que Nicholson veut dire par là. Je disais juste avant la pause que les mouvements de caméra dans le cinéma d'Antonioni, cette manière de mettre de l'avant, si on veut, l'objectif de la caméra comme étant autonome vis-à-vis du point de vue d'un personnage ou même de ce que serait peut-être la traduction du point de vue du cinéaste, que le cinéaste veut exprimer au spectateur. Au contraire, Antonioni, peut-être de manière utopique ou idéaliste, ça c'est en filigrane, disons, puisqu'il n'exprime pas son point de vue de façon nette, ça demeure en retrait. Donc le point de vue de la caméra peut avoir valeur pour lui-même, mais son mouvement ne peut se justifier parfois que simplement dans la mesure où il y a une puissance unique de la caméra, du point de vue de la caméra, qui n'a besoin ni de la légitimité du point de vue d'un personnage, ni de celui du réalisateur. Donc, ce qu'on trouve souvent dans les jeux vidéo d'une certaine façon, mais avec beaucoup moins de complexité, puisque c'est pas nécessairement rattaché à un propos dramaturgique profond. Disons, on s'en tient évidemment aux jeux vidéo dans leur définition la plus normative. Donc, au contraire, on dira qu'il y a une instrumentalisation de ce type de mouvement de caméra qui ne semble pas être rattaché à un point de vue, mais qui dénote simplement la mobilité possible d'un objectif cinématographique. C'est ce qu'on appelle, quitte à être un peu complexe aujourd'hui, mais Antonioni nous demande ça, nous exige ça, et c'est un cinéma assez exigeant, c'est ce que voulait dire aussi certainement Nicholson dans son commentaire. Une exigence est demandée au spectateur qui n'est pas vraiment pas le lot de la production généralement. Donc une exigence, une attention quasi philosophique. C'est un peu ce qu'on appelle l'ontologie du cinéma. Donc il y a cette idée que le cinéma aurait une nature particulière, une nature d'expression particulière qui ne correspond à aucune autre, qui n'a pas à se légitimer en convoquant d'autres formes d'art. Il y a une manière de définir le cinéma qui consiste à dire que c'est l'addition au XXe siècle de toutes les formes d'art qui l'ont précédé, l'opéra, la littérature sous sa forme romanesque, la peinture, etc., le théâtre évidemment. Mais il y a une autre manière de définir le cinéma qui consisterait à dire regardez droit devant ce que nous propose le cinéma, ça ne ressemble à rien qui a été fait jusqu'à maintenant, et essayez de me suivre, ça c'est la voix disons d'Antonioni, essayez de me suivre dans cette direction qui est une nouvelle façon d'envisager la mise en scène qui ne se légitime pas par le récit, par la convocation de la peinture, du théâtre, de l'opéra, etc., qui ne se légitime que par lui-même, que par le mouvement de la caméra. Et là vous allez comprendre ce que peut proposer le cinéma, qui montre en fait qu'on est déjà hors des traditions, qu'on est ailleurs avec le cinéma en fait, et que cet ailleurs désigne le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et le meilleur témoignage qu'on peut faire de la société et de la politique aujourd'hui, c'est par le cinéma, et c'est par la capacité qu'aura le cinéma à se dégager des formes traditionnelles antérieures. Évidemment, ça le dit, c'est traditionnel, c'est antérieur au cinéma. Et c'est cet espoir, cette volonté qui anime tout le cinéma d'Antonioni, qui fait tout son prix aujourd'hui, parce que, encore maintenant, par sa façon de narrer des fictions, de créer des récits malgré tout, parce qu'il en crée, il désigne tout l'avenir du cinéma, qui, à la longue, devient un peu un poids, puisqu'on a l'impression que la production contemporaine s'engonce dans un certain nombre de filons que l'on connaît depuis 100 ans. Vous écoutez au 7e ciel, Regard sur le cinéma, une émission qui cette semaine est entièrement consacrée à Michelangelo Antonioni. J'ai parlé un petit peu, pour ce qui concerne le film de Passengers d'Antonioni, du fait que la dimension politique de son cinéma, en fait, entre autres, un discours internationaliste s'exprime dans ce film. Bon, c'est un peu compliqué, peut-être, de développer cette idée si on s'en tient simplement à l'esthétique de Passenger, qui recèle beaucoup de subtilités et qui nous mène sur un terrain qui est parfois davantage esthétique en des termes de philosophie plutôt que simplement politique. Sauf que on peut quand même dire, à travers certains détails, comment s'exprime cette politique du cinéma d'Antonioni qui est jamais soulignée par des effets de montage, par un récit qui soit assez lourdement politisé, entre autres, par le dialogue. Bon, ça s'exprime pas comme ça, donc ça s'exprime comment? Ça s'exprime évidemment, je le disais tout à l'heure, par la caméra, par les mouvements de caméra, une manière de camper le décor et de le documenter de façon assez précise, attentive. Le cinéma d'Antonioni est un cinéma infiniment patient et qui appelle à une grande patience chez les spectateurs. On sait à quel point, et je le déplore souvent, la lenteur dans le cinéma contemporain est vue comme un défaut. Et on peut remarquer comment plusieurs cinéastes qu'on qualifierait d'auteurs en viennent à justement souligner la lenteur de certaines situations, de certaines séquences, justement en réaction par rapport à ce défaut que le cinéma industriel y voit. Évidemment, pour aller plus loin, il faut aller du côté d'Antonioni pour essayer de sortir de la réaction et trouver une lenteur qui se trouve légitimée par l'ensemble de l'esthétique, autrement dit, de l'esthétique d'un film. Autrement dit, Antonioni, s'il a développé au long de son cinéma une certaine forme de lenteur qui s'exprime soit par des mouvements de caméra, soit par une absence ou une relative absence de dialogue, ces choix-là participent d'un projet d'ensemble qui a été pensé en dehors des contraintes industrielles, mais pas nécessairement non plus pour y répondre tout à fait. Donc c'est surtout pas un cinéma agressif, c'est surtout pas un cinéma qui essaie de malmener le spectateur pour essayer de lui faire prendre conscience des réflexes dans lesquels il s'est retrouvé parce qu'il a été conditionné par un certain type de cinéma normatif. Au contraire, Antonioni a besoin de cette lenteur pour essayer d'exprimer autre chose. La réalité qu'il voit à travers le cinéma et que la plupart des cinéastes autour de lui, ses contemporains, qu'ils soient des tâcherons servant l'industrie ou qu'ils soient des auteurs en réaction face à cette industrie, ne voient pas. Et entre autres, dans la séquence que j'ai fait jouer, dont j'ai fait jouer la bande-son tout à l'heure, la première séquence du film de Passenger, Nicholson décrit comment cette spécificité cinématographique qu'Antonioni a si bien contribué à définir dans son apport le plus méconnu s'exprime, disons, d'un point de vue social, politique, par des détails et en particulier par des gestes. Quand Nicholson dit à un moment donné, pour décrire un plan qu'évidemment vous n'avez pas vu, mais qui, cette description-là donne une bonne idée de la situation et de la patience qui est demandée au spectateur, lorsque Nicholson dit pour décrire cette séquence « No one speaks or react », personne ne parle ou ne réagit, il est en train de faire comprendre que Antonioni exprime au spectateur l'absence de réaction, l'absence de parole. Et cette absence-là, c'est pas une béance, c'est pas un trou, c'est au contraire une manière d'exprimer une situation qui est certainement à contre-courant de ce qu'on voit généralement au cinéma, mais qui participe d'un projet d'ensemble. Pourquoi ça réagit pas dans le plan? Pourquoi ça ne parle pas? C'est pas compliqué, en fait. Antonioni documente quelque chose de tout à fait flagrant, soit le fait que son personnage principal se trouve dans un village en bordure du Sahara et qu'il est étranger. Forcément, les personnages qui sont devant lui ne vont pas nécessairement lui sauter dessus parce que pour des raisons culturelles, ils sont dans un espace-temps ou un quotidien qui appelle peut-être une infinie patience. Souvent, dans ces villages en bordure du Sahara, il y a un rapport au temps qui est tout à fait différent de cette temporalité contemporaine que l'on connaît à l'Ouest ou en Occident et qui est constamment scandée par les médias et par le cinéma. Donc cette temporalité, ce goût de la vitesse ne correspond absolument pas à la réalité africaine et subsaharienne. C'est ce que montre Antonioni. Donc déjà, son rapport au temps, à la lenteur, a une valeur documentaire et c'est pas simplement une réaction, c'est un facteur d'authenticité que son film prenne la peine de montrer cette lenteur dans laquelle forcément le personnage principal incarné par Nicholson doit être plongé. Donc personne ne parle, personne ne réagit. Et ce qui est déterminant sur le plan dramaturgique dans ce film et qui a une portée, disons, politique et entre guillemets internationaliste et même critique en ce qui a trait au lieu de convergence sur le plan international, ben c'est la cigarette. Donc, si on veut opposer le cinéma d'Antonioni à ce qu'on appellerait un cinéma de montage, qui serait illustré par excellence via les films d'Hitchcock, où à chaque fois qu'il y a un objet dans le plan, c'est un facteur de suspense, c'est parfois un facteur de malentendu entre les personnages. Ce sera par exemple un verre de lait dans Notorious d'Hitchcock qui devient l'occasion d'un suspense. Est-ce que le verre de lait est empoisonné? Est-ce que le personnage féminin joué par Ingrid Bergman va boire le verre de lait? Que va-t-il se passer? Gros plan sur le verre de lait. Donc il n'y a pas cette tension-là dramatique entre les personnages qui passeraient par la représentation d'un objet chez Antonioni. Au contraire, ce passage-là d'un objet entre deux personnages a une dimension politique et s'inscrit dans un cadre plus grand qui donne une valeur documentaire et un rôle, authentique, bien réel à l'objet. Donc, entre les personnages, ce qui se passe, c'est le passage d'une cigarette. C'est le principal point de communication possible entre les personnages. Et c'est cette jonction qui permet de faire lien, disons, entre le personnage joué par Nicholson, la communauté en bordure du Sahara qu'il va rencontrer, et éventuellement, nous, spectateurs, c'est aussi le point d'ancrage, le point de communication avec lequel, forcément, on se retrouve, d'une certaine manière, en phase avec la position dans laquelle se trouve Nicholson. Donc, on se rend compte, avec cette petite analyse que je fais rapidement, à quel point le cinéma d'Antonioni demande un travail de lecture beaucoup plus approfondi pour voir que son point de vue n'est pas autant détaché que peut-être des fois il l'aimerait. C'est-à-dire que les analystes d'Antonioni ont pu souvent dire de façon un peu idéaliste, mais c'est vrai que son cinéma est porteur de ça, que la réalité que présente Antonioni est simplement souvent lié à l'objectif cinématographique, à la spécificité cinématographique, à sa volonté en tant que cinéaste d'exprimer une réalité extérieure, un environnement par des mouvements de caméra. Et avec ça vient une certaine lenteur, une certaine contemplation. Mais ces mouvements de caméra-là sont évidemment pas exactement détachés du point de vue du cinéaste, du point de vue du spectateur et même du point de vue du personnage. Puisque le point de communication entre un personnage occidental et des personnages africains, c'est la cigarette, ce qui devient aussi un point de communication pour le spectateur, une manière pour lui de ne pas être complètement perdu. Simplement, de ne pas être complètement perdu dans une réalité documentaire qui serait encore plus éthérée, encore plus détachée des référents que nous avons dans le monde occidental. Donc ces référents-là, quand même, surviennent assez rapidement. C'est pas simplement la Jeep de Nicholson, mais c'est encore un échange entre deux personnages qui passent par la cigarette. Et cet échange-là, disons, et le fait que le personnage se trouve joué par Nicholson en état d'errance dans la région qu'il montre en Afrique, en bordure du Sahara, est suffisante pour créer un récit. Et c'est là où Antonioni est tout à fait singulier dans son approche vis-à-vis de la production courante. Donc, voyez, moi-même, je m'en sors pas, en fait. Parler d'Antonioni, c'est difficile de le faire sans le comparer avec une certaine idée du cinéma qui circule partout et qui lui colle à la peau. La volonté peut-être du cinéma d'Antonioni au fil de sa filmographie a été simplement de quitter la peau, de se détacher un peu du sujet humain, d'élargir le plan pour mieux faire advenir tout ce qui passe dans la réalité autour de nous, tout ce qu'il y a dans l'environnement et qui nous échappe parce que nous ne prenons pas le temps d'y voir clair. Et pourtant, le cinéma pourrait tellement nous permettre d'y voir un peu mieux. Voilà, je terminerai là-dessus et je vous dirai simplement de passer une très belle fin de semaine. À très bientôt pour une autre émission d'Au Septième Ciel. Thank you.